Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes très très heureux de vous retrouver ce soir pour la conférence de Monsieur Nicolas Smelty que nous avons le plaisir de recevoir. Docteur en histoire de l'art, ses recherches ont été portées sur l'histoire de l'art de la fin du 19e et du début du 20e et sur l'image imprimée qui est le sujet de sa thèse. Thèse qui a été publiée en 2014 chez Marr et Martin sous le titre « L'affiche illustrée en France au temps de l'affichomanie ou l'affico ?» L'affichomanie, 1889-1905. Thèse qui a été publiée, je viens de le dire, et qui reçut le prix du musée d'Orsay. Actuellement, M. Smelty est maître de conférence de l'art contemporain à l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens. Il est directeur du département d'histoire de l'art. Il est membre du centre de recherche en art et en esthétique. Il donne toujours des cours à l'école du Louvre et il a participé à des expositions aussi bien à Paris qu'en province. Pour la conférence de ce soir, M. Smelty nous propose de découvrir, peut-être sous un angle différent, il en a l'habitude, un grand artiste que vous connaissez tous, il s'agit de Henri de Toulouse-Lautrec, la stratégie de l'éphémère. Il me reste, Nicolas, vous remercier infiniment d'être ici ce soir, mais je crois que le public a hâte de vous écouter. Merci. S'il vous plaît, éteignez vos téléphones, sinon il ne parlera plus.
Bien. Merci beaucoup. Merci Marie-Claire. C'est toujours un immense plaisir de venir à Bordeaux pour parler d'art à un auditoire aussi large, et aujourd'hui tout particulièrement, et donc de profiter du sens de l'accueil vraiment sans équivalent de Marie-Claire et d'Alain Mansancal. C'est la quatrième fois que j'ai cette chance et aujourd'hui, bien, j'ai choisi d'évoquer un artiste qui m'est cher à plus d'un titre depuis longtemps et aujourd'hui tout particulièrement, étant donné que je suis en train de lui consacrer un livre. Et donc, il s'agit de Monsieur Henri de Toulouse-Lautrec. Donc, les fois précédentes, j'étais venu parler une toute première fois de Gerda Wegner, une artiste danoise parfaitement inconnue au bataillon, donc je ne prenais pas trop de risques. La deuxième fois, je suis venu parler de Chaim Soutine. C'était déjà un petit peu plus compliqué, mais ça s'est bien passé. La troisième fois, je suis venu parler de Van Gogh. Autant dire que là, j'entrais vraiment dans une zone rouge, une zone de danger. Personne ne m'a jeté de tomates. Bon. Aujourd'hui, Lautrec, je me suis dit, bon, de toute façon, parti comme c'est, là, voilà, hein, prenons les risques. D'autant plus que Lautrec, ici à Bordeaux, vous le connaissez bien, lui connaissait très bien Bordeaux et ses alentours. Il aimait beaucoup, notamment le théâtre de Bordeaux. À l'hiver 1900-1901, il se rend au théâtre de Bordeaux pour assister à la représentation de La Belle Hélène d'Offenbach. Il assiste aussi aux représentations de Messaline, d'Isidore de Lana. Et cette dernière pièce, d'ailleurs, lui inspire quelques-unes de ses ultimes œuvres. Sa mère aussi, la comtesse Adèle, était propriétaire du château de Malromé, à quelques encablures d'ici. Lautrec s'y est rendu à plusieurs reprises, et c'est même là-bas qu'il finira ses jours, d'ailleurs, en 1901. Mais, à vrai dire, ce n'est pas des liens entre Lautrec et Bordeaux dont je veux vous parler aujourd'hui, ce qui aurait pu faire, d'ailleurs, l'objet d'une conférence, mais ce sera peut-être pour une autre fois, et peut-être avec quelqu'un d'autre, d'ailleurs. C'est de toute autre chose que je veux vous parler. En fait, en 1992... un recueil de souvenirs de Thaddée Nathanson a été publié sous le titre « Un Henri de Toulouse-Lautrec ». Alors, en guise de clin d'œil au cofondateur de la fameuse revue blanche qui était Thaddée Nathanson, cette conférence, j'aurais pu l'intituler « Un autre Henri de Toulouse-Lautrec », comme une sorte d'invitation à faire un pas de côté pour considérer l'homme et son œuvre au-delà des lieux communs. Mon idée, c'est d'essayer de comprendre par quel mécanisme Lautrec a tâché de structurer et d'imposer cette identité fortement caractérisée qui, aujourd'hui encore, lui permet d'échapper à toute espèce d'étiquetage, à toute espèce de classification arbitraire et donc nécessairement réductrice. Celles et ceux d'entre vous donc qui s'attendaient à ce que je leur parle du Lautrec alcoolique, débauché, sarcastique, priapique, vont être un petit peu déçus, parce que ce n'est pas du tout de ce Lautrec-là dont il va être question aujourd'hui. En fait, pour être tout à fait honnête, ce que je vais faire ce soir, c'est vous révéler en avant-première, quelque part, le fil conducteur du livre que je suis en train d'écrire. Et donc, vous saurez avant tout le monde de quoi il s'agit, puisque pour le moment, c'est le secret absolu. Et j'espère que ça va vous mettre l'eau à la bouche, pour que moi, ça me mette de l'argent dans les poches. Mais bon, en tout cas, il faudra attendre le mois de septembre pour l'acheter, dans la mesure où il accompagnera, enfin, il sortira au moment même, donc, où aura lieu une grande exposition Lautrec au Grand Palais, à Paris. Première exposition d'envergure en France depuis 1992, donc, exposition que moi j'attends avec impatience, comme vous pouvez l'imaginer. Alors, Lautrec, tout le monde connaît au moins son nom. Beaucoup ont une idée plus ou moins vague de qui il était et de ce qu'il a fait. C'était un personnage haut en couleur, à la fois tendre, railleur. Il est célèbre aujourd'hui pour ses portraits intransigeants, pour ses scènes de maison close, qui sont d'une incomparable justesse, et surtout pour ses images des nuits montmartroises, dont il fut l'un des seigneurs. Tout cela a été maintes fois mis en avant, en exergue, et toutes ces réalités finissent trop souvent par cantonner l'œuvre de Lautrec à une dimension que je qualifierais de quasi-documentaire, au risque même donc d'occulter d'autres facettes qui, à mon sens, sont tout aussi fascinantes, d'autres facettes de son travail, d'autres facettes de sa personnalité. Il serait par exemple tout à fait abusif de voir en Lautrec, comme on a pu le lire à diverses occasions, le chroniqueur de la Belle Époque. Jamais Lautrec n'a eu la prétention d'agir comme le grand témoin de son temps. Jamais. Jamais il n'a imaginé que ses œuvres pouvaient être autant d'instantanées sur les aspects les plus divers de la société contemporaine. Son projet n'a absolument rien à voir avec, par exemple, celui d'un Honoré de Balzac ou d'un Émile Zola, qui, l'un et l'autre, entendaient peu ou prou embrasser le monde entier dans leurs romans. Le regard que Lautrec porte sur son époque, si tant est qu'il soit nécessaire de faire des parallèles, eh bien, est plus proche de celui d'Edgar Degas. Edgar Degas, lui, sélectionnait soigneusement ses sujets. Degas, d'ailleurs, pour lequel Lautrec avait énormément d'admiration et qu'il considérait comme un maître absolu. Alors, des bourgeois, des travailleurs modestes, des sportifs, des danseuses, des prostituées, des gens du spectacle, tout cela, on le retrouve dans l'œuvre de Degas et on retrouve ça aussi dans l'œuvre de Lautrec. C'est pour ça que j'ai fait quelques parallèles, là, purement thématiques, où vous voyez à chaque fois en vis-à-vis une œuvre de Degas et une œuvre de Lautrec sur des thèmes similaires. Je parlais des travailleurs modestes, là en haut vous voyez la modiste, donc c'est ce petit métier qui consistait à apprêter notamment des chapeaux, et Dieu sait si les coiffures des dames du monde à la fin du XIXe siècle pouvaient être impressionnantes parfois. La prostitution, c'est ce que vous voyez en dessous avec l'inspection médicale, une terrible, terrible peinture de Lautrec qui représente donc ce moment où le médecin vient dans les maisons closes pour inspecter les filles à la queue leu-leu, comme vous pouvez le voir, les fesses à l'air, et il les inspecte pour voir s'il n'y a pas de maladie vénérienne. Degas, lui, représente l'attente, donc on voit les filles dans des postures qui n'ont rien de très très élégante, hein. Elles attendent le client, tout simplement. En haut, à droite, vous voyez Mademoiselle Beka aux ambassadeurs, et une autre, en vis-à-vis, une œuvre de Lautrec qui s'intitule également aux ambassadeurs, où là vous voyez justement des chanteuses dans l'exercice de leurs fonctions, et en dessous enfin donc des bourgeois, j'évoquais ça à l'instant, le portrait à la bourse chez Degas et le portrait de Louis Pascal, un proche de Toulouse-Lautrec, dans ce qui est considéré un peu comme l'uniforme des hommes de la fin de siècle, avec donc la redingote et le chapeau haut de forme. Alors, en revanche, il y a des pans entiers de la société qui sont absents, et de l'œuvre de Degas, et de l'œuvre de Lautrec. On ne trouve pas de traces, ou si peu, de militaires, de mendiants, de têtes couronnées, de paysans, il y en a un petit peu des paysans chez Lautrec quand même, ou de gens d'église. Toutes ces catégories-là de la société ne les intéressent pas, ni l'un ni l'autre. Lautrec, en fait, n'a laissé entrer dans son œuvre que son propre monde. Et il a admirablement su le mettre en scène en ne misant aussi que sur ce qui lui semblait essentiel. La représentation du travail, par exemple, c'est assez rare dans l'œuvre de Lautrec. Il y a quelques contre-exemples que je n'ai pas mis là d'ailleurs, l'effigie d'un blanchisseur dans une maison close d'ailleurs, le docteur Péan en train d'opérer. Une de ses dernières œuvres s'intitule également « Un examen à la faculté de médecine ». Ce sont vraiment des exceptions. Les gens du spectacle, eux, sont représentés dans leurs activités, mais pas les autres. Les petits gens ne sont que très rarement montrés en train de travailler, contrairement à ce qu'on peut voir à l'occasion chez Degas, par exemple avec ses fameuses repasseuses. Regardez par exemple ces deux œuvres, Une huile sur toile, La blanchisseuse de 86, et une lithographie en couleur, La femme au tube, tirée de l'album de lithographie Elle de 96. Cet album de lithographie est consacré aux prostituées, à la vie dans les maisons closes. Et dans cet album, il n'y a pas une once de voyeurisme. On ne voit jamais les filles en train de travailler. Elles sont au repos ou elles sont en train d'accomplir des tâches de la vie quotidienne. Elles s'apprêtent ou là, donc vous la voyez, elles préparent de quoi faire ses ablutions. La blanchisseuse que vous voyez en vis-à-vis, là, on ne connaît par exemple l'activité professionnelle de cette femme que par le titre du tableau. Parce que quand on regarde bien, rien dans l'image, ni le décor, ni les accessoires, ni l'attitude du modèle ne mettent le spectateur sur cette piste. Donc, on a une espèce de dédain pour cette question du travail. Ça n'intéresse pas à Lautrec de représenter le travail. Il est attaché aux personnes dans ce qu'elles ont d'essentiel. Pas forcément dans ce qu'elles font au quotidien, mais dans ce qu'elles sont de manière profonde. Alors, Lautrec, on connaît aujourd'hui tout son œuvre. Mais, moi, il y a une question qui m'obsède, c'est de son vivant. Que connaissait-on de Lautrec? Qu'a-t-on vu de Lautrec? Déjà en 1964, deux auteurs qui s'appellent Huysmans et Dortu écrivaient ceci. Beaucoup de ses œuvres les plus appréciées, donc entendez aujourd'hui, hein, beaucoup de ses œuvres les plus appréciées n'étaient connues dans les années 1890 que d'une poignée d'amis qui les avaient vues dans son atelier. Mais tous les témoins de cette époque si riche en œuvres originales évoquent avec émotion la fastueuse floraison de ses affiches sur les murs de Paris. Alors, cette observation est tout à fait valable pour la peinture de Lautrec, que pourtant, il n'a pas caché. J'y viendrai tout à l'heure. Mais il est vrai qu'au tournant des années 1890, Lautrec découvre et exploite à l'envi d'autres moyens de diffuser son art, notamment la presse illustrée, et bien sûr l'affiche illustrée, dont il est, comme vous le savez, un des maîtres absolus. Une affiche, tout le monde la voit dans la rue. Une affiche, c'est 1000 fois plus efficace pour être vue qu'un tableau dans une galerie. Oui, mais voilà, qu'est-ce que l'affiche si ce n'est la reine des images éphémères? Donc j'en viens maintenant à justifier le titre de cette conférence, qui peut sembler un petit peu étrange, la stratégie de l'éphémère. À vrai dire, c'est aussi le titre que j'aimerais donner à mon ouvrage, mais sur ce point, le pouvoir des éditeurs étant assez redoutable, nous ne sommes pas encore entrés dans cette phase de négociation, et s'il me dit « non, un titre comme ça, ça ne vend pas », on ne l'appellera jamais comme ça. Je crois qu'on est parti pour appeler le livre « Toulouse-Lautrec ». Alors, moi, je tiens à ce titre-là parce qu'il relativise un petit peu les choses. Stratégie et éphémère sont évidemment des notions qui peuvent paraître antinomiques, mais ce sont des notions que j'ai associées parce qu'elles servent à situer finalement toute l'ambivalence du personnage. Parce qu'il y a une part évidente de stratégie dans la manière que Lautrec a de mener sa carrière, mais en même temps, il a parfaitement conscience que rien ne dure. Et ses passions, ses joies, ses choix aussi, ne s'inscrivent jamais dans un temps long. Alors, vouloir étiqueter Lautrec n'a aucun sens. Vouloir étiqueter n'importe quel artiste, de toute façon, ça n'a aucun sens. Mais ce n'est pas beaucoup plus subtil, il me semble, d'affirmer que Lautrec était une somme de paradoxes. Parce que fondamentalement, qui ne l'est pas ? Qui n'est pas une somme de paradoxes ? Dans ses souvenirs, son ami François Gozzi, avec qui il a fréquenté l'atelier de Fernand Cormon, écrit ceci. S'il se contredisait, c'était le moindre de ses soucis. Au reste, il lui était bien difficile, sinon impossible, de faire autrement. Ses contradictions étaient plus apparentes que réelles. C'était toujours la même fantaisie, la même indépendance, la même curiosité de la vie qui s'agite, le même goût du plaisir, la même passion du dessin, de l'art vivant, le seul qui comptait pour lui. Ça, cette notion, c'est intéressant. De l'art vivant, la vie. Il n'y a que ça qui compte pour Lautrec. Un de ses traits de génie, selon moi, a été justement de miser sur l'éphémère pour durer. Je vous laisse avec ça 2 minutes. Ce qui, justement, n'est pas le moindre des paradoxes. Je me permets de m'attarder un petit peu sur cette notion d'éphémère. S'attarder sur l'éphémère, c'est un joli paradoxe aussi, il me semble. Dès son plus jeune âge, en fait, Toulouse-Lautrec est animé par un sentiment d'urgence. Il lui faut vivre, il lui faut créer à toute vitesse. Il a été victime de 2 accidents terribles qui, couplés en plus à une maladie héréditaire des os, ses parents étaient cousins germains, forcément ça ne donne pas des cocktails extraordinaires niveau sanguin. Tout ça, mis bout à bout, a fini par stopper sa croissance. Il a été confronté à de très longues périodes de convalescence qui l'ont sans doute conduit à comprendre très tôt le sens du mot « vulnérabilité ». Bien plus tôt que la plupart des jeunes gens de son âge. Quand on est jeune, on ne sait pas ce que ça veut dire être vulnérable. C'est ça, c'est bien à ça que ça sert la jeunesse d'ailleurs. On a tout le temps après pour se rendre compte de ce que c'est. Eh bien, cette prise de conscience très précoce de la vulnérabilité, de sa vulnérabilité, plutôt que de le plonger dans la morosité, eh bien cette prise de conscience très précoce, oui, du caractère éphémère de toute chose, à commencer par l'existence humaine, eh bien n'a fait qu'alimenter une espèce de rage de vivre innée, sans doute, et nécessairement excessive. Parce qu'excessif, Lautrec l'était en tout. Dans la vie comme dans son œuvre, la tiédeur n'était jamais de mise. Parce qu'il savait que rien ne dure. Lautrec a vécu comme il a créé, c'est-à-dire intensément, avec gourmandise, sans jamais s'économiser. Dans son travail, rien n'est jamais très long. Dans son faire, je voulais dire, dans sa manière de travailler. Et on voit que cette notion d'éphémère traverse tous les aspects de sa pratique. Les séances de pause, par exemple, je disais tout à l'heure que c'était un portraitiste extraordinaire. Les séances de pause sont rapides, pour ne pas dire furtives. Et quelques-uns des modèles qui ont posé pour lui en ont témoigné. La technique de la peinture à l'essence, qu'il commence à utiliser de manière récurrente au début des années 1890, a elle aussi quelque chose d'assez particulier par rapport à cette notion de temps. Pour la peinture à l'essence, en fait, on extrait l'excès d'huile de la peinture à l'huile et puis on la dilue avec de l'essence de térébenthine, ce qui a pour effet de donner une peinture très fluide. Et cette peinture, quand elle est appliquée sur du carton, comme souvent chez Lautrec, sèche très vite et donne l'impression de ne laisser que des traces. Elle recouvre moins le support qu'elle n'est absorbée par ce même support. C'est en grande partie pour cela aussi que les tableaux de Lautrec ont quelque chose d'inachevé, en tout cas ont tous le goût de l'inachevé. Parce que Lautrec, une fois qu'il a saisi l'essence de son modèle, bon, il ne s'encombre pas de fioritures. Le décor chez Lautrec est toujours quelque chose de très subsidiaire. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. C'est un peintre de l'homme, un peintre de la figure. Regardez par exemple cette Jane Avril qui danse là, en 1892. Jane Avril, son visage, il s'est attardé longtemps sur son visage. Le reste est déjà beaucoup plus rapidement brossé. Et regardez le décor, il est à peine indiqué. Et pourtant, tout vibre dans ce tableau. Il n'a pas eu besoin d'aller plus loin pour insuffler la vie, insuffler l'énergie propre à la danse de Jane Avril. Le portrait de Paul Leclerc, que vous voyez là aussi à droite, semble saisi en une seule fois, tellement il est vivant, tellement il est présent. Et du point de vue des sujets, il y a là aussi un lien étroit avec l'idée d'éphémère. C'est un peintre de la fête, en tout cas du spectacle. Le spectacle ne peut pas durer toujours, mais il n'aura de cesse de se replonger dans le spectacle, de se replonger dans la fête en permanence, dès que l'occasion se présentera, quitte même, lui, à créer les occasions de la fête, pour que cette fête soit sans cesse réinventée, parce qu'il sait très bien que ça aussi, ça ne dure qu'un instant. Et enfin, sa vie elle-même n'a été que trop brève. À 37 ans, 37 ans, c'était déjà terminé. Alors, l'époque dans laquelle il vit aussi est une époque très particulière. La fin du 19e siècle, c'est déjà une phase d'accélération du monde contemporain. Il faut dire que tout va de plus en plus vite dans ce monde qui est le sien. Maurice Joyant, qui était un de ses amis d'enfance et qui a écrit une des premières biographies de Lautrec, qui est toujours utilisée d'ailleurs de nos jours par les historiens, disait ceci. Inlassablement, il observe tout ce qui, de 1885 à 1901, tourbillonne, s'agite dans les courses, les vélodromes, les cirques, les cafés-concerts, les bals de Montmartre, les théâtres, les endroits où le nu peut se mouvoir en toute liberté. Il cherche en fait, là j'ai fini la citation, il cherche à capter la vibration du monde contemporain. Et cette vibration, c'est celle de l'instantané, c'est celle du furtif, du rapide. Alors, c'est aussi pour cela que la peinture d'histoire, par exemple, ne l'intéresse absolument pas. Représenter des épisodes mythiques ou avérés d'un passé lointain, dans une forme figée, académique, ça c'est tout sauf Lautrec. Ça c'est un milieu de sa sensibilité. Ça ne l'intéresse absolument pas. Ce qu'il veut, c'est capter la vie. Alors, reconsidérer Lautrec et son œuvre sous un angle nouveau, c'est bien gentil, mais c'est loin d'être un parcours de santé. La pauvreté des sources, par exemple, c'est un des principaux obstacles auxquels on est confronté quand on veut mener une entreprise comme celle-ci. Les souvenirs qui ont été publiés par les uns et les autres, souvent à plusieurs années après la disparition de l'artiste. Donc vous imaginez à quel point la mémoire peut un petit peu déformer les choses. Eh bien, ces souvenirs-là sont de ce fait à appréhender avec beaucoup de prudence. Entre un Maurice Joyant, donc son ami d'enfance, qui agit en quelque sorte comme le garant de la gloire posthume. Entre un François Gozzi, camarade d'atelier, qui est bien imprécis dans ses datations et qui souvent semble un peu enclin à romancer les anecdotes qu'il rapporte. Entre un Gustave Coquiot, écrivain et critique d'art de son état, qui, à plus d'une reprise, semble un peu faire un procès à charge de Lautrec sur le plan moral. Eh bien, nous vous l'a servi. Par ailleurs, la plupart ont tendance à parler davantage de l'homme que de son œuvre. Et dans le meilleur des cas, ils le font pour redorer son blason. Donc je dirais que le verre est dans la pomme depuis longtemps déjà. Et le fait qu'on parle de l'homme, qu'on parle beaucoup de l'homme, de ses frasques, de ses mœurs, de son physique, bien plus que de son œuvre, c'est à la fois très redondant, mais c'est tout à fait révélateur à plusieurs égards, de tout un tas de choses. Déjà de son vivant, on ne sait pas vraiment quoi faire ni quoi dire de l'art de Lautrec, parce qu'il est très particulier, trop particulier, j'y reviendrai. De ce point de vue, il est sans doute l'une des figures les plus insaisissables de l'histoire de l'art, en tout cas de sa génération, parce qu'il est bien difficile justement de le classer, simplement de trouver les mots pour parler de son œuvre, de trouver le bon angle. Eh bien, donc là, je parle de ses contemporains. On se rabat sur ce qu'il y a de sûr, sur ce qu'il y a de vérifiable, en l'occurrence sa personne. Eh bien, les choses vont longtemps demeurer ainsi, jusqu'à la rétrospective de 1991-92, qui invitait à repenser Toulouse-Lautrec, pour reprendre le titre du texte introductif du catalogue qui était signé Richard Thompson, immense historien d'art pour lequel j'ai énormément d'estime. Cet élan salutaire, initié par les commissaires de cette exposition, n'a pas eu totalement raison de la légende. Eux ont tout fait justement pour reconsidérer les choses du point de vue de l'histoire sociale de l'art, notamment en reposant justement les questions. Mais Et donc en proposant de nouvelles perspectives dans la manière d'appréhender l'œuvre de Lautrec, hein, notamment à travers le prisme de l'histoire culturelle, en confrontant son travail à de multiples points de comparaison issus du champ des beaux-arts, mais aussi de la culture de masse, avec une attention toute particulière portée notamment sur la presse illustrée. Eh bien, en dépit de cet énorme chantier, ils n'ont pas réussi à avoir raison de la légende. La légende Lautrec est toujours tenace. J'évoque un instant là cette question de la presse illustrée. Cette question du rapport entre Lautrec et la presse illustrée, entendez le dessin caricatural, c'est très intéressant. L'historien d'art Bruno Foucard, qui était donc professeur à la Sorbonne et qui nous a quittés il y a pas très longtemps, a écrit à juste titre, je cite, qu'il y avait chez Lautrec les audaces du grand reporter et la nature d'un caricaturiste. Il ne développe vraiment aucune de ses possibilités. Eh bien moi, j'ajouterais qu'il le fait sciemment. Il l'a fait en son âme et conscience. Ce n'est pas par fainéantise ou par incapacité à mener ses projets à bien qu'il n'a pas opté pour ces voies-là. Lautrec a fait du dessin de presse, il a fait quelques dizaines d'œuvres, pas plus, et ses dessins étaient savoureux et appréciés. Vous en voyez un là qui a été publié dans le journal satirique Le Rire en 1894, une effigie donc d'Yvette Guilbert en train d'interpréter une de ses chansons, Linger, Longer, Lou. Alors pourquoi n'a-t-il pas poursuivi dans cette voie si ça fonctionnait bien? Eh bien tout simplement parce que sa valeur suprême à lui, c'était la liberté. Et pour rien au monde, il ne se serait laissé emprisonner dans une case, dans une catégorie aussi flatteuse, aussi glorieuse soit-elle. J'évoquais l'affiche, là, il y a quelques instants. Dès sa première affiche, en 1891, celle pour la Goulue au Moulin Rouge, il a été sacré comme un des maîtres du genre. Et sa renommée en tant qu'affichiste était absolument immense, en France comme à l'étranger. Il était exposé à l'étranger, parce qu'à l'époque, on organisait des expositions d'affiches dans l'idée de convaincre le grand public, l'opinion, que l'affiche illustrée, ce n'était pas simplement de la publicité, c'était aussi une nouvelle forme d'art. Et dans ces expositions, à l'étranger, en France, il y en avait beaucoup, mais il y en avait aussi à l'étranger, eh bien, les artistes français étaient très largement représentés, et Lautrec avait toujours sa place. Eh bien, constatant cela, il aurait très bien pu se spécialiser dans l'affiche illustrée, dans le sens, j'entends par là devenir un affichiste ultra productif, ultra courtisé, comme a pu l'être Alphonse Mucha à la même époque. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Lautrec n'a signé que 32 affiches, et les 15 meilleures ont été réalisées entre 91 et 93. Après, sa production ralentit, et, il faut l'avouer, perd aussi en qualité. Est-ce que cela veut dire que Lautrec souffre d'un manque d'inspiration à partir de 94 en tant qu'affichiste? Non, non, en aucun cas. C'est simplement que son cœur et sa curiosité le portent déjà vers d'autres horizons. L'affiche, il a vu, il a montré ce qu'il était capable de faire. Très bien, maintenant, il fait autre chose. C'est en 1894, qu'il commence à faire, par exemple, de la prostitution un sujet majeur de son œuvre. Vous voyez ici, au salon de la rue des Moulins, qui date à peu près de cette époque-là, qui est une de ses plus belles œuvres sur ce thème. Et puis 1894, c'est aussi l'année Yvette Guilbert, je dirais. Yvette Guilbert, donc la célèbre chanteuse, hein, qu'il admire énormément et qui devient pour lui une obsession. Pendant longtemps, il va voir Yvette Guilbert en spectacle sans jamais oser l'approcher, tellement elle l'impressionne. François Gozzi, que je citais tout à l'heure, je vais le reciter, parce que parfois, il dit quand même des choses très intéressantes, Gozzi. Gozzi dit ceci au sujet de Guilbert. « Il n'est guère de personnage que Lautrec ait poursuivi avec plus d'acharnement et de ténacité le crayon à la main. Il a dessiné la chanteuse dans ses mouvements les plus inattendus, notant ses expressions les plus fugitives dans les divers théâtres où elle chantait, accumulant notes et croquis. » Encore une fois, vous voyez, Gozzi le remarque lui-même. Lautrec note les expressions les plus fugitives de Guilbert. C'est-à-dire qu'il capte ces toutes petites choses qui font Guilbert. Yvette Guilbert va lui inspirer plusieurs projets, dont l'illustration d'un album lithographique dont le texte sera signé Gustave Geffroy et qui sort donc peu de temps après cette espèce de prise de contact première en 1994 avec Guilbert. Alors, pour se replonger dans l'histoire de Lautrec, j'irai à la racine. La source la plus fiable, et par conséquent la plus largement exploitée, ça reste encore sa correspondance. Et tout comme les lettres que Vincent Van Gogh a écrites à son frère, celles de Toulouse-Lautrec sont abondamment convoquées dès qu'il s'agit de retracer son parcours. Moi-même, je m'en sers énormément, mais là encore, il y a des limites. La biographie, désormais bien connue de Lautrec, s'est appuyée sur ces lettres parfois très riches en anecdotes. Mais dès qu'il s'agit d'aborder une analyse et une interprétation de son œuvre, eh bien, la correspondance de Lautrec se révèle assez décevante. Je parlais de Van Gogh à l'instant. Eh bien, contrairement à Van Gogh, Lautrec ne s'est que très peu exprimé sur son art, sur ses objectifs, sur ses attentes. L'idée d'une stratégie, donc, pour revenir au titre de cette conférence, ne s'échafaude donc qu'à la lumière de ses expositions. Et ces expositions servent, en tout cas dans ma réflexion actuelle, de trame, de colonne vertébrale en quelque sorte. Je m'interroge sur les conditions d'exposition. On sait aussi où il a exposé. Mais je me penche donc avec beaucoup d'attention sur ce qu'il a exposé, où, quand, pourquoi, pour qui. Alors, s'il y a évidemment songé pendant ces années de formation, comme tout jeune artiste qui se respecte, le salon officiel, par exemple, ne semble pas l'avoir attiré très longtemps. À vrai dire, même des doutes qui persistent quant à une éventuelle tentative d'exposer au salon en 1885 et qui se serait soldée par un refus de la part du jury, mais rien n'atteste formellement des faits. Lautrec n'a pas fait l'école des beaux-arts, mais il a tout de même suivi une formation très studieuse auprès de deux vedettes du salon de cette époque dont il a fréquenté les ateliers, les peintres académiques Léon Bonnat, pendant quelques semaines seulement, puisqu'après Bonnat ferme son atelier, donc bon, bah, il faut trouver un autre maître, et donc cet autre maître ce sera Fernand Cormont. Cormont auprès duquel il va rester quand même pendant près de 5 ans. Vous voyez, Bonnat, Cormont, ces noms-là ne disent plus forcément grand-chose à grand monde, mais ils ont été les maîtres, en tout cas, de Lautrec, plus Cormont, bien sûr. Et c'est chez Cormont qu'il a rencontré, entre autres, Bernard, Émile Bernard, Louis Anquetin aussi, qui était son grand copain, et Vincent Van Gogh également. Trois peintres qui ont eux aussi été les élèves de Cormont et avec lesquels Lautrec a entretenu des relations amicales. Alors, à l'issue de sa formation, Lautrec a très tôt choisi d'emprunter d'autres voies que celles du système traditionnel, justement. Le salon, ce n'est pas pour lui. En 1883, alors même qu'il est un tout jeune apprenti encore, hein, la toute première œuvre qu'il expose, elle n'est pas visible à Paris, mais à Pau, dans une modeste exposition organisée par la Société locale des Amis des Arts. Et donc, il commence par montrer son art en province, très très loin de Paris. Et il ne parle pas d'œuvre, d'ailleurs, dans sa correspondance au sujet de cette exposition. Il parle de son tableau comme d'un navet. Ce qui en dit long déjà sur l'estime qu'il a pour son travail à ce moment-là. Le tableau s'appelait « Un accident », mais on n'est pas tout à fait sûr de son identification. Mais cette première tentative était tout sauf un accident, justement. Alors, c'est assez récurrent quand on se penche sur les œuvres exposées par Lautrec, ce problème d'identification. Parce que très souvent, elles ont été montrées sous un titre différent de celui qu'on emploie aujourd'hui. Et comme plusieurs œuvres de Lautrec peuvent avoir un sujet semblable, eh bien, il n'est pas rare de s'interroger sur laquelle a été effectivement exposée. Il faut ensuite attendre 1886 avant que le public puisse voir à nouveau ces tableaux, mais pas n'importe quel public, et puis pas dans le cadre d'une exposition. C'est à Montmartre. C'est sur les murs du cabaret du Mirliton, qui était tenu par le chansonnier Aristide Bruant, que sont accrochés les tableaux que vous voyez là, à la Bastille, et à Montrouge. Alors, évidemment, là, ce n'est pas le public des galeries d'art, non, ce n'est pas le public des expositions, c'est le public du cabaret, qui vient pour se faire invectiver par Bruant. Bruant avait un style bien à lui, qui oscillait entre le convenable et le pas du tout, du tout convenable. Et le public qui s'entasse dans ce minuscule cabaret peut voir des œuvres de Lautrec accrochées autour de lui. Parallèlement, quelques dessins de Lautrec sont aussi publiés dans la revue du cabaret, qui s'appelle également Le Mirliton. Vous en voyez un exemple ici, une couverture. Vous voyez que le style très cru de ces dessins fait écho au registre naturaliste de Bruant, qui se voulait le chantre des faubourgs, des filles de mauvaise vie, des petites gens, des marlous et des laissés pour compte. Il y a là une espèce de parallèle entre la crudité du registre et la crudité du dessin. Mais là, Lautrec n'illustre pas Bruant. Il est sur le même terrain, mais il n'est pas dans une logique d'illustration. Il ne se subordonne pas à Bruant. C'est Bruant lui-même qui trouve les titres des tableaux qui sont accrochés au mirliton. Et ces titres sont les mêmes que ceux de chansons de son répertoire, comme là, « À la Bastille »,« À Montrouge ». Mais il ne faut pas les voir, il ne faut pas voir ces œuvres-là, encore une fois, comme autant de simples illustrations peintes, parce que Lautrec n'est pas du tout dans cette logique, pas du tout. À chaque fois, Bruant trouve un lien. Dans « À Montrouge », il parle d'une rousse, oh bah, ça tombe bien, on va l'appeler « À Montrouge ». Alors en 1887, il expose également dans un restaurant à Montmartre, en compagnie de son ami Van Gogh et d'Émile Bernard, et de quelques autres aussi, mais on ne sait malheureusement pas ce qu'il a alors montré, parce qu'il ne reste aucune archive de cette exposition, en dehors de ce qu'a pu en dire Van Gogh dans sa correspondance et Émile Bernard dans ses souvenirs. Mais la même année, en 1887, donc, il expose à Toulouse. Et comme vous pouvez le voir, les accents réalistes sombres des œuvres qui sont exposées au mirliton laissent place à des influences plus nettement impressionnistes et néo-impressionnistes. La palette s'éclaircit, la touche devient plus suggestive que descriptive. Mais il faut attendre 1888 pour que Lautrec expose dans un cadre vraiment prestigieux lors de l'exposition du groupe des 20 à Bruxelles, qui était une association qui visait à promouvoir l'art d'avant-garde, et notamment les néo-impressionnistes. C'est un groupe belge, donc, mais qui invitait chaque année des artistes étrangers, et en 1888, Lautrec a eu cet honneur, alors qu'il est quasiment inconnu à cette époque. Vous voyez bien où il a exposé. Les affiches, c'est même pas encore envisageable à cette époque. Première affiche en 91. Mais il n'empêche que par tout un réseau de connaissances, Lautrec est invité au vin. Et c'est le début d'une histoire d'amour avec la Belgique qui va durer jusqu'en 1897, date à laquelle il expose pour la dernière fois à Bruxelles au Salon de la Libre Esthétique qui a succédé donc au Salon des Vins. En France, c'est dans le cadre du fameux Salon des Indépendants que Lautrec aura plusieurs fois l'occasion de montrer son travail à partir de 1889 et encore une fois jusqu'en 1897. Et là, au Salon des Indépendants, il était comme un poisson dans l'eau. Pensez donc, il n'y a pas de jury au Salon des Indépendants, il n'y a pas de récompense non plus. Il n'y a que des artistes qui montrent ce qu'ils ont envie de montrer au public et aux critiques qui veulent bien s'y intéresser. Et donc c'est aux indépendants que Lautrec commence à s'imposer comme le peintre de Montmartre, en tout cas à s'imposer publiquement comme tel, et plus spécifiquement du peintre comme le peintre du Moulin Rouge. C'est son QG, le Moulin Rouge. Dès l'ouverture, hein, ça devient un habitué du Moulin Rouge. Et il va d'ailleurs colporter plusieurs œuvres d'exposition en exposition comme autant de porte-étendard de cette étiquette finalement de peintre du Moulin Rouge qu'il est le seul à arborer avec autant de fierté et surtout avec autant de talent. Le portrait de la Goulue entrant au Moulin Rouge que vous voyez là a été exposé ainsi pas moins de 5 fois entre 1892 et 1893. Et une fois encore en 1898, lors d'une grande exposition rétrospective à Londres, qui a fait un four complet. Mais quoi qu'il en soit, c'est dire l'importance qu'il pouvait accorder à ce portrait de la Goulue. C'est une espèce d'effigie, une espèce de porte-étendard, hein, comme je le disais à l'instant. Alors, en dehors des indépendants et du Salon des Vins, Lautrec montre ses œuvres aussi dans de petites expositions organisées dans des galeries, comme chez le Parc de Bouteville, par exemple, un galeriste qui organisait des expositions impressionnistes et symbolistes, où on voyait quasiment rien d'impressionniste ni de symboliste au sens où on l'entend aujourd'hui, ou dans le cadre aussi du Salon des Cents. C'était une exposition à peu près mensuelle qui était organisée par la revue La Plume. Et pendant un temps, il expose même dans le cadre très huppé du cercle Volney, dont les sociétaires sont pour l'essentiel des peintres déjà bien installés et qui comptent parmi les grandes vedettes du salon, sont des messieurs comme William Bouguereau, Jean-Jacques Henner. Eh bien, Lautrec expose avec eux pendant un temps, au tout début des années 1890. Donc il fait vraiment feu de tout bois. Et au sujet de cette capacité de Lautrec à exposer dans le même intervalle au cercle Volney et au Salon des Indépendants, Richard Thompson, que je citais tout à l'heure, et qui est un éminent spécialiste de Lautrec en l'occurrence, hein, s'est interrogé en ces termes. Je cite, « On ne saurait dire si cette bipolarité était ingénue ou opportuniste. » Eh bien, pour ma part, je pense que ce que Richard Thompson nomme bipolarité, c'était en fait une stratégie tout à fait pensée et tout à fait assumée de la part de l'artiste. Parce qu'il ne montre pas n'importe quoi, n'importe où. Dans les expositions du Cercle Volney, ces tableaux sont très sages, comme vous pouvez le constater, là. Le portrait d'Hélène Vary, tout à fait convenable, le modèle est exquis, et la réalisation de l'œuvre est tout à fait sage. Mais regardez ce qu'il expose aux indépendants. À l'ami, là, il lâche les chiens. Forcément, il ne vise pas les mêmes publics, et il ne vise pas non plus les mêmes critiques. Ceux qui s'intéressent aux indépendants ne sont pas forcément ceux qui fréquentent le Cercle Volney. Il y en a dans les deux, mais pas forcément. Alors, le plus possible, moi, j'essaie de retrouver les articles de presse qui font écho à ces expositions pour essayer de mieux comprendre la manière dont l'œuvre de Lautrec a été perçue de son vivant, mais aussi, tant que faire se peut, pour voir si ses commentaires avaient une influence sur ce qu'il allait faire après. Alors, cela dit, sur ce point comme sur d'autres, j'essaye en tout cas de garder à l'esprit cette mise en garde de Francis Jourdain, qui lui aussi a bien connu Lautrec et auquel il a consacré un très très beau texte, dans lequel il dit « Les rapports de cause à effet ne sont pas aussi simples que notre paresse nous incite à l'admettre. » J'essaie de garder ça toujours en l'horizon, comme un horizon, me dire « Ah oui !» éviter de me dire plutôt « Ah oui, on avait dit ça sur son œuvre, alors du coup il ne l'expose pas après, ou alors on avait dit que ça c'était mauvais, alors il expose autre chose. » Parce que ce n'est pas du tout le cas, en l'occurrence. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il procède. Par exemple, à Toulouse, voyez, le portrait que j'ai montré là de sa mère a été descendu par les deux ou trois critiques qui s'y sont intéressés. Cela n'a pas empêché de l'exposer après au Salon des Vins à Bruxelles. Il ne s'est pas dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pas une croûte. Faut plus jamais la montrer. » Non, non. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais en tout cas, il l'a accroché après à Bruxelles. Et à Bruxelles, le fait est que au Salon des Vins, on plébiscitait l'approche néo-impressionniste. Comme ça procède légèrement du néo-impressionnisme, il n'était pas fou, Lautrec. Il s'est dit, bah, ok, là-bas, ils n'ont rien compris, les cutéreux de Toulouse. Mais peut-être que les Bruxellois vont comprendre. Et il a eu du nez. Alors, à plusieurs reprises, sa correspondance prouve aussi que Lautrec n'était pas du tout, en tout cas pas seulement, le bohème insouciant qu'on a l'habitude d'imaginer. Au contraire, il était curieux de savoir ce qu'on pouvait penser de son travail. Mais il n'était pas complètement obsessionnel non plus. La critique d'art sur les œuvres de Lautrec, de son vivant, est assez redondante. Les commentateurs de l'époque, je le disais tout à l'heure, et bien souvent ceux qui ont suivi aussi, se sont plus focalisés sur l'homme plutôt que sur son œuvre. Ce qui est tout à fait révélateur de l'exigence de l'œuvre de Lautrec sous ses abords, qui peuvent paraître assez évidents parfois du point de vue du sujet. En réalité, c'est beaucoup plus exigeant que ça. Finalement, on n'a pas vraiment su comment appréhender cet art-là de son vivant. Cet art qui ne ressemblait à rien d'autre de connu. On comprenait bien ce qui était montré du point de vue du sujet, mais quelque chose échappait en fait au commentateur. Quelque chose de difficilement exprimable, de difficilement cernable, d'identifiable. Alors, peut-être que de manière quasi inconsciente, ces commentateurs se sont rabattus sur ce qui était le plus évident, le plus vérifiable, le plus facile à commenter. L'homme et son physique, l'homme et ses frasques, son originalité, ses excentricités, parce qu'il était très excentrique quand même, il adorait se déguiser, il adorait faire l'abruti. Sa laideur, qui est discutable, sa petitesse, qui ne l'est pas. Tout cela a été maintes fois consigné, rapporté, analysé et même interprété, mais tout cela ne disait pas grand-chose sur l'œuvre. Alors parfois, quelques-uns se sont hasardés à faire des parallèles entre le caractère glauque, je reprends des mots de l'époque, mordant, voire cynique de l'art de Lautrec, et une sorte de revanche sur la vie par œuvre interposée. Ce qui aurait été donc, ce qui a été plusieurs fois démonté, pièce par pièce, par ceux qui l'ont connu, par ceux qui ont été ses proches, Gauzy, Nathanson et d'autres, et qui eux ont souligné à quel point Lautrec était complètement dénué de cette soi-disant méchanceté. Certains critiques disaient « Lautrec n'a pas eu de chance dans la vie, c'est un abo, il est laid, alors il se venge par œuvre interposée, il nous renvoie une image du monde qui est glauque, qui est cynique, finalement il est amer. » Et pas du tout. Lautrec s'amusait, il vivait comme bon lui semblait, il se souciait pas du tout du « qu'en dira-t-on », il cherchait pas la publicité par son comportement, même si parfois il faisait vraiment le... Dans le Nord, on dit « il faisait le Jacques ». Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose chez vous, ça veut dire « il faisait l'imbécile ». Il a pu être blessé, bien sûr, et ses proches l'ont rapporté à plus d'une reprise. Il a pu être blessé par les quolibets dont il pouvait faire l'objet par moment. En entrant dans une salle, les gens rient parce que c'est un petit homme claudiquant. Mais justement, il prenait tout ça à contre-pied, c'est le cas de le dire. Il agissait parfois de manière provocante, il prenait plaisir à amuser la galerie. Les anecdotes à ce sujet sont très nombreuses. Mais c'était pas forcément pour qu'on parle de lui, c'était sa façon d'être. La seule publicité qui l'intéressait, c'était celle que pouvait lui apporter son art. Il n'y avait que ça qui semblait pour lui fondamental. Alors, rares sont ceux qui ont vraiment pris conscience du caractère totalement unique des propositions de Lautrec, tant sur le plan stylistique que sur le plan iconographique. Dans les années 1890, à l'heure où les impressionnistes sont quasiment intégrés, à l'heure où les néo-impressionnistes occupent vraiment le devant de la scène, je dirais alternative, et qui vont bientôt être rejoints par les nabis, par les cloisonnistes aussi dans le sillage de Gauguin, sans parler des symbolistes idéalistes. Alors, eh bien, au milieu de ce paysage, Lautrec trace sa route et il affirme la toute-puissance de la ligne, la toute-puissance du non finito, de l'inachevé. Il fait de l'inachevé son credo. De l'inachevé au sens traditionnel du terme, au sens académique du terme. Il adopte une palette souvent sourde, sauf dans ses affiches, parce qu'il n'est pas fou. Une affiche dans des teintes brunes ne va pas attirer l'œil. Une affiche avec du rouge et du jaune, forcément ça marche tout de suite. Son style peut être influencé sous certains aspects par Degas, par Forain, certes, et lui d'ailleurs ne s'en cache pas. Il se réclame de Degas et de Forain. Mais ce qu'il fait, lui, n'a absolument aucun équivalent. Mettez une œuvre de Forain et une œuvre de Lautrec côte à côte. Bon, il y en a un qui a du talent, l'autre a du génie. Alors, on dit que Lautrec a été le peintre des nuits montmartroises, certes, mais quand on s'y attarde, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de gaieté dans son œuvre. Quand on pense Montmartre, les nuits de Montmartre, on pense tout de suite French Cancan, on pense la fête, on pense le mouvement. Oui, ça, il l'a représenté à travers des effigies. À travers Jane Avril, à travers la Goulue. C'est la Goulue qui danse, c'est Jane Avril qui danse, c'est pas le cancan qu'il représente. Regardez, j'aurais dû en mettre d'ailleurs en vis-à-vis, une effigie de la Goulue en train de danser et une de Jane Avril, c'est deux façons d'être au monde radicalement différentes. Elles s'expriment par leur danse, c'est leur façon d'être au monde. Leur personnalité, je dirais, transpire dans leur danse, sans vouloir chercher à faire un petit jeu de mots. Eh bien, Lautrec, c'est ça qu'il capte, c'est pas le cancan. D'ailleurs, j'ai vu dans la programmation qu'il va y avoir une conférence sur le French cancan en toute fin de saison. Ni dans ses œuvres montmartroises, entre guillemets, ni dans ses portraits au sens large, on ne sent de joie exultante. On ne sourit pas beaucoup chez Lautrec, exception faite de quelques portraits un peu bonhommes d'un monsieur qui s'appelle Boileau, un autre qui s'appelle Delaporte aussi. Paul Leclerc, que je vous ai montré tout à l'heure, avait aussi un sourire un peu sarcastique. Mais il émane de l'œuvre de Lautrec, y compris dans ses scènes de nuit montmartroise, une grande mélancolie qui ne semble pas avoir été relevée par les commentateurs de l'époque. On a pu parler de la mine mélancolique de tel ou tel modèle, mais c'est une grande mélancolie qui parcourt l'ensemble de l'œuvre. Les modèles affichent des mines souvent graves. Les modèles adoptent souvent des postures ou des attitudes, en tout cas rarement légères, rarement enjouées. Mais les couleurs, la ligne, les stries de peinture, la pesanteur, non pas la lourdeur, mais la pesanteur des compositions, tout cela concourt à véhiculer ce sentiment étrange, mêlé, mélancolique. Cette mélancolie n'est-elle pas celle finalement qui étreint les hommes de cette époque, conscients de vivre dans un monde qui est déjà désenchanté ? Alors, Lautrec ne s'est pas contenté, je vous disais qu'il était soucieux de savoir ce qu'on pouvait penser de son travail. Il ne s'est pas contenté de chercher les articles de presse parlant de lui. Il a aussi fait son possible pour que des critiques et des journalistes se fendent de quelques lignes à son égard. Et donc, il n'a pas hésité à faire marcher ses relations pour obtenir ce résultat. Des relations qui allaient de Roger Marx, par exemple. Roger Marx, qui est un critique d'art, qui d'ailleurs aussi a sa... très favorable en fait aux formes d'art d'avant-garde et qui a aussi été au gouvernement à l'époque, à une époque à l'administration des Beaux-Arts. Il a été proche aussi d'André Marty, qui a été un grand promoteur de la lithographie originale. Il a été proche, je le disais tout à l'heure, de Gustave Geffroy, autre critique favorable aux approches les plus novatrices. Eh bien, toutes ces connaissances forme un véritable réseau d'influence dont Lautrec a su se servir et dont il a entendu en fait tirer des bénéfices. Par exemple, quand il sortait une affiche, il écrivait un petit mot à Roger Marx en disant « Marx, ma prochaine affiche est placardée demain dans les rues, un petit mot dans votre journal s'il vous plaît. » Voyez ? Il les contactait comme ça, il les informait en deux, trois lignes en disant « Ah, tiens, je fais une expo, ce serait sympa que vous veniez. » Des petites choses comme ça. Mais il savait très bien ce qu'il faisait. Il voulait montrer ce qu'il savait faire. Et ce réseau d'influence lui a servi finalement de relais. Il voulait montrer son travail parce qu'il avait des choses à dire par le biais de son art. Si, comme l'a écrit l'historienne de l'art Claire Fraîche-Thory, je cite, « Lautrec n'éprouva jamais le souci de faire carrière pour des raisons pécuniaires », eh bien, il ne faudrait pas non plus en déduire qu'il n'a pratiqué son art en dilettante, parce que ce n'est pas du tout le cas. Il était en plus assez loin d'être indifférent aux questions d'argent. Certes, il vient d'une famille d'aristocrates qui n'a pas de problème d'argent. Mais il était soucieux malgré tout de cela. Hein, quand il vendait une œuvre, il voulait en tirer un bon prix. Il ne voulait pas la donner pour des cacahuètes. Alors, plusieurs passages de sa correspondance d'ailleurs le prouvent, hein, que l'argent n'est pas quelque chose qui lui est totalement indifférent. Au contraire. On pourrait aussi penser qu'être artiste, finalement, sans avoir besoin d'en vivre, sans avoir besoin de vendre son travail pour vivre, c'était pour Lautrec une manière d'occuper son temps, d'occuper son esprit. Eh bien non. Un simple regard sur sa très courte carrière suffit à prouver qu'il n'en fut rien. Lautrec était artiste parce qu'il fallait qu'il le soit. On pourrait avancer en invoquant le concept qui était cher à Vassili Kandinsky, qu'il répondait à une nécessité intérieure. Donc à quelque chose de très impérieux, quelque chose, cette nécessité intérieure à laquelle il lui était, pour ainsi dire, impossible d'échapper. Cela dit, il n'y a aucune dimension mystique à déceler dans cette vocation artistique. Parce que Lautrec n'était pas du tout sensible à tout ce qui pouvait relever d'une conception métaphysique, ésotérique, mystique, spiritualiste des choses. C'était un homme plein d'esprit, mais qui ne se souciait guère de l'esprit. Lautrec, c'était un pragmatique, c'était un amoureux de la vie, comme on dit, en tenant compte de tout ce que ce type d'expression tiroir a d'absurde. C'est quelqu'un qui était en quête de ce que la vie a de meilleur à offrir, et donc il était enclin à en jouir tant que possible. Et de ce point de vue, Lautrec partage bien sûr quelques traits avec la bohème, avec cette bohème montmartroise qu'il fréquente, à commencer par cet esprit d'indépendance, ce goût de la fête, qui sont ceux de la bohème. Mais l'étiquette bohème, que le temps et la littérature ont imbé d'une aura romantique, ne saurait suffire à désigner ce que fut Lautrec. Lautrec se distingue vraiment de ses homologues bohèmes à plus d'un titre. Il fait la fête avec eux, il s'enivre avec eux, il a lui aussi ce goût de l'indépendance. Mais sur bien d'autres aspects, il se distingue. La bourgeoisie triomphante de la Troisième République, par exemple, ne semble lui avoir inspiré que du mépris, mais rien de comparable au sentiment de répulsion, par exemple, éprouvé par d'autres artistes célèbres de la bohème montmartroise, comme Adolphe Villette, comme Théophile Alexandre Steinlen ou Henri-Gabriel Ibels, qui, eux, avaient une dent contre cette plutocratie. Lautrec, en bon aristocrate, s'en tapait éperdument. De même, si comme Lautrec, les peintres et les dessinateurs montmartrois ont cherché à étancher une soif de reconnaissance, les méthodes qu'ils ont mises en œuvre pour y parvenir n'avaient rien en commun avec les siennes. Eux ont cherché par tous les moyens à crier haut et fort leur identité montmartroise par l'illustration de journaux, par des décorations de cabarets, en organisant des bals, des parades carnavalesques, et tout en lorgnant en même temps avec convoitise sur les honneurs officiels. Tous espéraient un jour sortir de ces années de vache maigre, de cette bohème, de cette identité montmartroise et bohème dont ils étaient si fiers, mais bon, s'ils pouvaient avoir un peu plus à manger et une position un peu plus confortable, c'était bien aussi. Villette, par exemple, a commencé dans le caniveau à Montmartre et il a fini en exposant dans les salons jusque dans les années 1920. Eh bien, Lautrec, lui, était dans une toute autre logique. Une toute autre logique. Lui a emprunté une autre voie, à la fois plus personnelle et tout aussi riche en paradoxes. Comme je vous le disais, les honneurs officiels, lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Lautrec a hérité de l'esprit d'indépendance et d'intransigeance de la génération des Manet, des Degas et des impressionnistes qui ont refusé eux aussi de se plier au dogme des convenances. En 1867, la mère de Berthe Morisot écrivait ceci à sa fille. Elle lui disait « Il y a des œuvres pour une exposition, d'autres pour l'atelier. Il faut suivre le goût du public si on veut réussir. Avec certaines œuvres, on fait sa réputation auprès des artistes. Avec les autres, on fait des affaires, si possible. » Observation d'une maman soucieuse de l'avenir de sa fille. Eh bien, cette observation entre en résonance avec le conseil que Henri Rachou a donné à Lautrec. Henri Rachou, c'était le massier de l'atelier Cormont. On est en 1884. Lautrec a pour ambition de proposer un dessin au Figaro. Et puis finalement, il s'est ravisé. On lit dans sa correspondance que Rachou lui a fait observer, je cite, « qu'il ne fallait soumettre au public que ce qu'on pouvait faire de mieux. Or, mon dessin aurait pu être mieux. Je pense que vous ne m'en voudrez pas d'avoir écouté ce sage raisonnement. » Quand on compare, Berthe Morisot a été sans doute plus frondeuse que Toulouse-Lautrec, parce qu'elle, elle a choisi de ne pas choisir entre ce qui était destiné au public et ce qui était destiné aux artistes. Pour sa part, Lautrec, lui, n'a pas cédé à une tentation, je dirais, clientéliste, mais il a préféré composer, il a ajusté ses choix, il a ciblé. Alors quand il décide de se lancer dans la lithographie, par exemple, il n'opte pas pour des tirages très importants. Ces lithographies sont tirées à quelques dizaines d'exemplaires, maximum, et elles s'adressent donc à des connaisseurs, à des amateurs d'estampes. En revanche, quand il fait du dessin de presse ou de l'affiche, là c'est le grand public qui a accès à son œuvre. Cela dit, il va plus loin encore, je dirais que la génération précédente, la génération héroïque précédente, qui eux non plus n'ont jamais totalement dénigré le salon, Manet n'avait rien contre le salon dans l'absolu, c'est plutôt le jury du salon qui avait une dent contre lui. Lautrec, lui, fraye très tôt au sein des réseaux alternatifs, en profitant de ces derniers pour devenir l'acteur de sa propre indépendance, qui relève plus d'une volonté que d'une réalité imposée par un marché ou par une critique aux orientations éloignées de ses propres aspirations. Il est indépendant parce qu'il le veut, pas parce qu'on lui impose. Toulouse-Lautrec sans étiquette, ça c'est une posture qu'il adopte très vite, de son propre chef. Dans une interview qui a été publiée dans le journal L'Écho de Paris, on lui demande de quelle école il se réclame, il dit « je ne suis d'aucune école ». Mes maîtres s'appellent Degas et Forain, je ne suis d'aucune école. Il est créateur de sa propre figure sociale. Et de ce point de vue, il se situe sur le même terrain que Van Gogh, que Cézanne ou que Gauguin. C'est-à-dire qu'il exploite à l'envi les arcanes du système marchand critique et il profite du développement des galeries et des salons indépendants pour se fabriquer une identité hors catégorie. Ce qu'il représente le situe dans cet ailleurs-là. Et bien que Lautrec ait eu la volonté de n'appartenir à aucun groupe d'artistes socialement constitué, il a toujours flirté à droite à gauche comme ça avec les uns avec les autres. Sa sociabilité d'artiste est composée d'entités aussi différentes que Émile Bernard, je le disais tout à l'heure, Van Gogh, Anquetin, mais aussi Signac, les Nabis, et tout ce petit monde se regarde, s'observe, échange, mais il ne se copie pas les uns les autres. Chacun cherche sa voie. Et ça, c'est une des constantes au sein de cette galaxie Lautrec. Mais ça n'empêche pas Lautrec de capitaliser aussi de temps à autre sur les acquis de ses semblables, de faire fructifier les graines qui ont été plantées par d'autres. Mais il n'est pas dans une logique de spoliation non plus. Par exemple, son intérêt pour la captation de l'éphémère, c'était déjà celui des impressionnistes. Mais à la différence des impressionnistes, qui ont été essentiellement, eux, intéressés par les variations observables dans la nature, variations climatiques, les variations de lumière, Lautrec, lui, s'est concentré sur le monde urbain contemporain, comme son cher Degas, et plus précisément sur les gens, sur les personnes qui composent ce monde contemporain. Le paysage ne l'a jamais vraiment intéressé, qu'il soit urbain ou rural, le paysage, il s'en fout éperdument. Ce qui l'intéresse, c'est l'homme. Alors, comme Degas, dira-t-on, on y revient à Degas. En fait, en préparant cette conférence, je me suis dit, une exposition Degas-Lautrec, ce serait magique. On verra un jour. Certes, mais on peut avancer cette hypothèse. Là où Degas s'empare des sujets que lui offre le monde contemporain pour se poser des questions purement picturales, notamment en termes de cadrage décentré, asymétrique, tronqué, sans manquer d'ailleurs de noter avec une immense justesse, malgré tout, ce qui fait le sel de son époque. Les costumes, les attitudes, les habitudes, les postures, les activités professionnelles, les loisirs. Degas capte tout ça avec une science incroyable. Lautrec, lui, s'intéresse plus précisément à la vibration, je le disais tout à l'heure, particulière du monde moderne, à son rythme. Son art tout entier est stimulé par cette volonté de captation qui passe à la fois par la multiplication des supports d'expression, mais aussi par ses développements stylistiques en parfaite adéquation avec cette quête. Son trait, qui est de plus en plus elliptique dans ses dessins comme dans ses lithographies au fur et à mesure que le temps passe. Sa touche, toujours plus suggestive et allusive plutôt que strictement descriptive, comme le faisaient déjà les impressionnistes. On observe ça dans ses années de maturité. Après, il revient à une touche beaucoup plus empâtée, beaucoup plus lourde dans ses toutes dernières années. Son recours à la peinture à l'essence, qui a pour effet de donner à ses œuvres cet aspect de trace, tout ça, c'est autant de signes. Autant de signes qui montrent que Lautrec cherche les meilleurs moyens possibles pour insuffler dans ses œuvres la vie qu'il aime tant, et dont il est autant le spectateur attentif que l'acteur passionné. On va user un néologisme, Toulouse-Lautrec, ce serait le spectacteur par excellence. Le spectacle, la nuit, l'ivresse, les femmes. Toulouse-Lautrec ne se contente pas d'observer, qu'on ne se contente pas de regarder. Froidement, tant que faire se peut, il fait l'expérience de tout ça. Il s'y confronte, il essaye de sentir dans sa chair tout cela, de percevoir et d'apprécier tous ces phénomènes, toutes ces réalités plutôt, avec tous ses sens. Alors, il est 19h02, je suis très heureux d'avoir calibré à la minute près mon intervention, et j'aimerais donc terminer cette conférence en citant quelques mots d'une courte nécrologie qui a été publiée dans le Figaro du 12 septembre 1901. Elle est signée d'un certain Numa, et je la trouve d'une lucidité confondante. Écoutez bien, Numa dit « Parce qu'il était petit, laid, paradoxal et de tout point singulier, Toulouse-Lautrec a été réduit à une conception abrégée, un schéma. Il était prisonnier d'une formule. Les mots gnome, nain, bohème, Montmartrois sont venus se placer d'eux-mêmes sous la plume de ses nécrologues. Ils n'exprimaient qu'un côté de cette nature méconnue. » Numa ajoute que sa foudroyante intuition, aidée d'un travail constant, se réduisait en d'âpres synthèses. Parce que oui, effectivement, quand on regarde ça, on a l'impression que c'est un type qui fait ça un peu par-dessus la jambe, quand il a le temps, il trace trois trucs et après il s'en va. Non, Lautrec travaille en permanence, tout le temps un crayon à la main, tout le temps un pinceau. Et alors, preuve que Lautrec n'a dévoilé qu'une partie de son œuvre publique, Numa parle de ses rares peintures. De ses rares peintures. En 1901, voilà où on en est. Pourtant, il en a peint plus de 737 des peintures en 10 ans de carrière. Et Numa ajoute que c'est dispersé aux mains de collectionneurs jaloux, le meilleur de son œuvre reste ignoré du grand public. Voilà où on en était en 1901. Et il termine par « Ceux-là même qui, moralistes plutôt qu'artistes, critiqueront le caractère de son inspiration, son soi-disant goût du lait, sa fantaisie féroce, ne lui dénieront pas la qualité essentielle en art, le style. Et de personne, il ne fut plus vrai que le style et l'homme même. » Je vous remercie.